Une nouvelle séquence à la rencontre de la population pour Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer s'est rendu à la FOL à la mi-journée où plusieurs associations avaient mis en place un pique-nique géant. Plus de 3000 visiteurs à la 25e édition du Salon des collectionneurs à l'hôtel de ville de Nouméa. Pendant 3 jours, 35 collectionneurs ont présenté leurs trésors à un public venu en nombre. Le Premier ministre tiendra une conférence de presse dans la nuit de lundi à mardi pour nous. François Bayrou doit prendre la parole juste avant une rentrée politique qui s'annonce tendue. Une promotion Rima Hassan pour un master de criminologie de l'Université libre de Bruxelles. La polémique enfle en Belgique depuis quelques heures. Le sport et le rugby et une rentrée réussie dans le mondial pour le 15 de France féminin. Les tricolores sont imposés ce matin 24-0 sur l'Italie. Et puis sur le territoire, la fin du trail coast to coast entre Tours et Koné. C'est le trio Novicki, Espada, Conan qui s'est imposé après 2 jours de course. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Un rendez-vous tout d'abord à noter sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Vendredi midi, c'est Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, qui était l'invité exceptionnel du magazine Transparence. Interrogé par Elisabeth Noir, Manuel Valls est revenu longuement sur la mise en œuvre de l'accord de Bougival, mais aussi sur la position du FLNKS. Notez que ce magazine Transparence, avec pour invité Manuel Valls, sera diffusé juste après ce journal. Rendez-vous à ne pas manquer donc. Transparence qui est également disponible en réécoute audio et vidéo sur notre site internet le www.rrb.nc. Un dimanche sur le terrain pour le ministre des Outre-mer, Manuel Valls a ajouté une séquence à son programme de visite. Aujourd'hui, à Nouméa, il a rendu visite aux participants qui s'étaient rassemblés pour un pique-nique géant organisé sur la colline de la FOL, Michael Juneski.
Un nouveau déplacement à la rencontre du grand public. Le ministre des Outre-mer qui est venu assister à ce rendez-vous organisé par des associations et pour la bonne cause, un grand repas partagé ouvert à tous. Emmanuel Valls qui s'est donc exprimé lors d'une coutume à son arrivée sur le site de la FOL. Il a tout d'abord déclaré « La Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui au cœur de la tourmente. À la suite des violences de mai 2024 qui ont laissé des fractures profondes, nous sommes dans un moment difficile qui oblige à beaucoup de solidarité. »
C'est aussi l'occasion de souligner les aspects positifs de cette terre. C'est une terre de partage avec des communautés, des religions et des valeurs qui sont kanaks, océaniennes, mélanésiennes, françaises, évidemment, républicaines, européennes. La Nouvelle-Calédonie a besoin de stabilité pour préparer l'avenir. Et au nom, au fond, d'une seule idée, le destin commun. Mai 2024 a vu beaucoup de certitudes tomber. Les gens ont eu peur. Ils ont encore peur que ça recommence. Et donc notre responsabilité, ma responsabilité, c'est au contraire de redonner confiance dans l'avenir. Je sais que c'est difficile, ça ne se décrète pas. Ça se fait avant tout avec les Calédoniens. Voilà, c'est ça le message. La paix et la prospérité de la Nouvelle-Calédonie, nous ne la construirons que ensemble, en partageant des valeurs et un destin commun. Pas en s'excluant, pas à travers la haine, le racisme et le rejet de l'autre. Vous êtes la Nouvelle-Calédonie, que chacun, qu'on soit indépendantiste ou non indépendantiste, quelles que soient les couleurs politiques des élus, que chacun prenne bien conscience et soit responsable que c'est votre destin qui est en jeu. Parfois c'est pas facile, faut beaucoup convaincre, c'est très difficile en Nouvelle-Calédonie, les politiques calédoniens sont très particuliers, mais avec vous je sais, et avec ce type de réunion, qu'on peut construire l'avenir, j'en ai aucun doute. Merci.
Voilà pour cette déclaration du ministre des Outre-mer. Le pique-nique géant visait à réunir tous ceux qui le souhaitaient avec des dégustations, de la musique, des animations. L'initiative a vu le jour l'année dernière durant la crise insurrectionnelle et elle a été suivie par de nombreuses associations.
Je m'appelle Manata Kiaora du groupe Cuisine Calédonienne qui représente 90 000 personnes. Le rendez-vous, c'était l'année dernière, en plein pendant les événements. J'avais voulu créer un rassemblement pour prouver que la nourriture partagée, que le vivre ensemble était toujours parmi nous. Cette année, c'est dit qu'on pourrait relancer ça et on a eu la surprise que le ministre vienne nous voir. C'est le destin commun et c'est plus ou moins ce que j'essaye de prouver aujourd'hui, c'est que la nourriture rassemble et qu'on est la Nouvelle-Calédonie, c'est un peuple avec différentes ethnies et qu'on est tous là, dans la joie et la bonne humeur.
Chef Alphonse Côté, racontez-nous cette journée très particulière.
En fait, je pense que c'est une belle image parce qu'en fait, on parle de la cuisine, mais la cuisine, la gastronomie et toute la nourriture en général. Tout le monde s'est assis autour d'une table et mange ensemble la même chose. Enfin, c'est déjà une partage de nourriture, mais une partage humaine aussi. Ouais.
Chef Gabriel Lebiennois, cette visite du ministre des Outre-mer, ça ajoute une dimension particulière à ce rendez-vous.
Oui, on était content de le recevoir. En fait, on l'a reçu avec notre cœur. Ici, c'est un événement où la société civile, elle est représentée par des associations et on se rencontre à travers notre alimentation. Et c'est un peu ce visage qu'on a envie de montrer. Quand on prépare à manger, manger pour quelqu'un, on prend soin de lui. Mais c'est aussi une façon de porter une fierté de ce que l'on a, nous, ici en Calédonie, et de montrer qu'en fait, on a l'appétit pour le vivre ensemble.
Le public est venu nombreux encore une fois, des centaines de personnes présentes pour cet événement. Et la visite de Manuel Valls, c'était l'occasion pour les représentants du monde associatif de rappeler leur rôle. Pierre Oulépa, président de la Fédération des œuvres laïques, a trouvé un ministre à l'écoute.
Il a eu des mots de cœur. Alors au début c'était un peu politique, mais après il a eu vraiment des mots de cœur en parlant finalement de ce qu'il avait compris lui à la Nouvelle-Calédonie, hein, sur le fait que les Calédoniens ont à se dire, ont à montrer quelque chose, et c'est ce qu'il a retenu. Et je trouve que sa sensibilité, au-delà de sa sensibilité politique, c'est une sensibilité tout à fait humaine de quelqu'un qui a parlé de cœur à cœur et notamment sur la question finalement de aujourd'hui le vivre ensemble. C'est pas nous les hommes d'État qui allons le définir, qui allons le dessiner, c'est vous qui allez le dessiner. La société civile a son mot à dire dans son avenir. Les élus sont des représentants de la société civile, c'est la démocratie. Si les élus pensent que c'est eux la société à eux tout seuls, on vit dans un système totalitaire.
Pour Thibaut Bizien, président du collectif des associations, il était important de montrer à Manuel Valls cette image de la Nouvelle-Calédonie.
Ce qui est vraiment bien dans sa visite, c'est que ça lui permet de voir la Calédonie qu'on aime, c'est-à-dire des gens qui sont regroupés, toute ethnie confondue, toute classe sociale confondue, qui passent simplement un bon moment en musique, en mangeant bien, en prenant soin d'eux. C'est vraiment important parce qu'en dehors des moments très politiques qu'on vit, il y a aussi ces moments simples. C'était aussi l'occasion de dire, mais voilà, les associations, malgré toutes les difficultés, elles sont encore présentes, elles ont besoin de soutien parce qu'elles n'en ont eu aucun de la part de l'État jusqu'à présent, alors que le monde économique, quant à lui, a heureusement, bien sûr, eu du soutien. Nous, les associations, on attend encore. Et pourtant, on est là. On est toujours là pour créer du lien. On est toujours là pour jouer le rôle qu'on a à jouer. Et puis, tous les secteurs confondus, hein, le handicap, le social, l'environnement, la culture, la santé, l'éducation et le sport, et j'en passe. Il y a plein de choses dans les associations. Et c'est ça, la vie quotidienne, au fait. Et c'est ça qu'on a besoin de soutenir aujourd'hui. Donc oui, on a passé le message gentiment, en douceur. Et justement, ne pas en faire un instant trop politique, mais un instant sincère.
Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui a passé près d'une heure et demie dans une ambiance conviviale et chaleureuse sur le site de la FOL.
Et parmi les autres temps forts de la visite de Manuel Valls ce week-end, rappelons cette nouvelle réunion hier après-midi du comité de rédaction de l'accord de Bougival. Le ministre des Outre-mer ayant décidé, vous le savez, de prolonger jusqu'à demain lundi son séjour sur le territoire, les délégations politiques, sauf le FLNKS, se sont retrouvées au Haut-Commissariat afin de poursuivre le travail entamé jeudi dernier. Cette réunion du comité de rédaction s'est achevée un peu avant 20h. Une réunion très technique pour la traduction et l'écriture juridique de l'accord de Bougival. Notez qu'une troisième réunion de ce comité est programmée pour demain matin. Ce sera à 9h, toujours au commissariat. Avant cela, Manuel Valls assistera à la rentrée des classes à l'école Edmond de Brosse et dans le quartier de Caméré, école qui avait été vandalisée lors des émeutes insurrectionnelles de mai 2024. À propos de l'accord de Bougival signé en juillet dernier. Le président du FLNKS, Christian Théin, qui a participé ce week-end aux universités d'été de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts, Christian Théin s'exprime par voie de communiqué. Depuis plusieurs semaines, certains discours cherchent à faire croire que j'aurais donné mon accord pour la signature d'un document lors de la séquence de Bougival le 12 juillet dernier, écrit le président du FLNKS. Je le dis avec force et clarté, cette affirmation est mensongère. Je n'ai jamais donné ni directement ni indirectement mon aval à une quelconque signature, expliquant qu'il n'était pas présent à Bougival à la suite, et je cite encore, d'une décision politique mûrement réfléchie. Je ne pouvais cautionner une mise en scène orchestrée par l'État français, écrit encore Christian Théin, qui rappelle par ailleurs, et je cite toujours, que l'objectif du FLNKS reste clair, l'accession pleine et entière de Kanaky à la souveraineté. Nous n'accepterons pas de compromis dilatoires ni de pseudo statut de dépendance déguisé en autonomie renforcée. Fin de citation. Manuel Valls a donc prolongé sa visite sur le territoire. Il doit quitter la Calédonie demain soir. Avant cela, il réunira, on le disait une nouvelle fois demain, le comité de rédaction de l'accord de Bougival qu'il a installé jeudi dernier. Une visite dont nous parlerons demain matin avec le député Nicolas Metzdorf. Il sera notre invité à 7h30. Demain, c'est le retour en cours pour les élèves après 2 semaines de vacances scolaires. Et la semaine qui va s'ouvrir, le congrès doit se réunir à 2 reprises, Michael Juneski.
Oui, une première fois demain après-midi avec à l'ordre du jour. jour une délibération pour des mesures de soutien à l'emploi et deux projets de loi de pays, l'un sur la lutte contre le gaspillage et l'autre sur la création d'un fonds de réserve spéciale. Jeudi, les élus étudieront deux projets de loi du pays, le premier pour favoriser l'insertion des travailleurs en situation de handicap, le second pour une meilleure connectivité. Vendredi, les conseillers de la province Nord siégeront également en séance publique pour étudier 42 projets de délibération. Et toujours vendredi, on notera le congrès du pays Kanak qui doit élire le nouveau président du Sénat coutumier. Samedi prochain, ce sera l'ouverture de la période des soldes d'hiver. Elles dureront un mois. Ce sera aussi le début de la nouvelle exposition de Caroline de Groisel intitulée « Variations en fantaisie couleur ». Elle est installée à la galerie Artebello et se poursuivra jusqu'au 11 septembre.
Au chapitre des faits divers, rappelons cette disparition inquiétante à Koumac. C'est un pêcheur à pied à la Seine qui a disparu depuis hier soir. Un dispositif de recherche a été mis en place tout au long de la journée par le COS-NC avec notamment un hélicoptère Puma des forces armées en Nouvelle-Calédonie, la SNSM de Koumac, mais aussi des patrouilles de gendarmerie. Plus de 3000 visiteurs se sont rendus à la 25e édition du Salon des collectionneurs à l'hôtel de ville de Nouméa. Pendant 3 jours, 35 collectionneurs ont présenté leurs trésors. Adultes comme enfants ont pu découvrir ou redécouvrir coquillages, voitures, petits trains, avions miniatures, lampes à pétrole ou encore timbres. Pour Jean-Pierre Bressler, le responsable de l'organisation, le bilan est plus que positif.
Cette 25e édition, c'était une totale réussite. Nous avons eu en gros 3000 personnes sur 3 jours. Avec un samedi exceptionnel où il y a eu du monde la matinée, l'après-midi, le midi. Les allées étaient noires de monde dans la salle d'honneur de la mairie. Il y a eu de tout, des collectionneurs, des curieux, des chineurs. Beaucoup de gens sont repartis avec des coups de cœur et puis plein de choses. Ça s'est bien passé. Le vélo qui a été présenté, qui nous avait été prêté par la province sud, le premier vélo, le Grand Bi, a eu un grand succès. Parce que ça a été le premier vélo et puis je crois qu'il n'y en a qu'un sur le territoire. Ça a été vraiment un succès ce vélo-là.
Et pour les collectionneurs présents, ce salon 2025 était placé sous le signe de l'intergénérationnel et chacun a pu trouver son bonheur.
Inès, je suis collectionneuse de cartes Pokémon et d'objets Pokémon. J'ai rencontré personnellement beaucoup de collectionneurs, beaucoup de nouveaux collectionneurs et d'anciens également. Les gens étaient assez impressionnés par la collection que j'exposais, en tout cas les plus belles pièces que j'ai pu présenter.
Bernard Baudouin, ce sont les petites voitures de marque Dinky Toys qui sont très anciennes, ça date de 1970 et puis bon, il y a des trains là. Je suis un peu étonné parce que vous voyez les jeunes générations, ils se sont intéressés aux petites voitures et puis aux trains. Je ne pensais pas que ça serait comme ça.
Nathalie, je vends une collection de thèmes, ça dépend parce que les thèmes, il y a des moments où il y a des gens intéressés et d'autres un peu moins. Le plus, c'est le Pacifique, la Calédonie, c'est surtout ça qui a été demandé. C'est positif. Après, c'est une première, donc voilà, à refaire.
Jacques Esposito, stand de collection des objets de débit de boisson et des pièces de monnaie. On a eu beaucoup de visiteurs, quelques acheteurs et beaucoup de gens qui sont intéressés par les collections. Ce qui a bien marché, c'est les objets de vitrine, avec notamment des objets en cristal, des grandes maisons de cristallerie de Lorraine, et les pièces de monnaie pour certaines de France, notamment.
Et le 25e salon des collectionneurs a refermé ses portes il y a tout juste une heure à la mairie de Nouméa. Ce dimanche, les disciples d'Escoffier tiennent leur repas annuel. C'est le dîner d'Épicure, c'est au restaurant Le Rouf. Un rendez-vous de la gastronomie qui est l'occasion de réunir tous les membres de cette association présents sur le territoire. Les précisions d'Olivier Arce, c'est le président de la délégation calédonienne des disciples d'Escoffier.
Bon, les disciples d'Escoffier, c'est une association locale qui comporte une bonne quinzaine de chefs et on est une quarantaine en tout. On est tous bénévoles. Et une fois par an, on fait un dîner de gala, mais phénoménal. Et tout l'argent récolté, les bénéfices récoltés, sont reversés à une association différente chaque année. Cette année, on a décidé de reverser nos bénéfices à l'association ACAPA pour s'occuper des personnes âgées. C'est le partage, la transmission, l'entraide. C'est les disciples d'Escoffier. Voilà, on a la chance d'accueillir Frédéric Jauneau, meilleur ouvrier de France, champion d'Europe de sculpture sur fruits et légumes, champion de France de dessert. Donc il a plein de palettes à son arc. Et pour la Calédonie, c'est génial.
Et l'association des disciples d'Escoffier existe depuis 1954. Elle est représentée à l'international en hommage au chef Auguste Escoffier, évidemment. Les fonds récoltés ce soir seront reversés, vous l'avez entendu, à l'association calédonienne d'aide aux personnes âgées. Il est pratiquement 18h sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal à suivre l'actualité en métropole et dans le monde.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur » à la galerie Artebello, rue Auguste Brun, samedi 30 août, café rencontre de 9h30 à 12h. Expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec Lionel Sabourin.
Le Premier ministre tiendra une conférence de presse dans la nuit de lundi à mardi pour nous. Ce sera 1h du matin, heure de Nouméa. François Bayrou doit prendre la parole juste avant une rentrée politique qui s'annonce tendue avec notamment une nouvelle motion de censure en réaction au plan de près de 44 milliards d'euros d'économie. Motion de censure qui sera examinée le 23 septembre prochain. Le Premier ministre a préparé cette rentrée politique lors d'un dîner avec Emmanuel Macron. C'était jeudi dernier au fort de Brégançon. Le chef de l'État lui a publiquement exprimé son soutien. L'actualité politique, c'est aussi la gauche en quête d'union, mais qui la joue en ordre dispersé. Ce week-end se tiennent les universités d'été de plusieurs partis de gauche, les écologistes, les communistes ou encore les insoumis. Ils sont réunis avec en ligne de mire, évidemment, la présidentielle de 2027. Hier, Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, avait appelé à une primaire de toute la gauche. Le député écologiste d'Indre-et-Loire, Charles Fournier, va plus loin. Il espère que Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon accepteront de participer à cette primaire.
Moi, je crois qu'il faut, quoi qu'il se passe, réussir cette primaire, même si certains ne la rejoignent pas. Mais en tout cas, à cet instant, ce qui me paraît fondamental, c'est de tout faire pour qu'il y ait un processus qui puisse être proposé, pour qu'une plateforme d'idées soit sur la table. Parce qu'une primaire qui serait juste une affaire de casting n'est pas satisfaisante. Et il est urgent de pouvoir le préparer. Moi, j'attends une primaire qui s'appuie, qui invite les candidats à aller chercher des soutiens citoyens. Cette primaire, elle est nécessaire. Maintenant, j'invite évidemment Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon à ne pas avoir peur de cette primaire et à considérer qu'elle est, s'ils sont convaincus qu'ils sont une solution pour notre pays, alors ils doivent pouvoir se confronter à une primaire et cette primaire, elle doit être massive pour être évidemment une réussite.
Le député écologiste d'Indre-et-Loire, Charles Fournier, invité d'Europe 1 Week-end. Dans l'actualité ce soir également, le CRIF qui demande la déprogrammation d'un groupe de musique au festival Rock en Seine. Nijab, un groupe de hip-hop nord-irlandais, doit se produire dans les prochaines heures au domaine de Saint-Cloud, c'est en proche banlieue parisienne. Fervent soutien du Hezbollah, l'un des membres du groupe, est poursuivi au Royaume-Uni pour infraction terroriste. Face au risque d'incident, le Conseil représentatif des institutions juives de France demande que ce groupe ne se produise pas. Jonathan Harfi est le président du CRIF.
Ce qui est grave, c'est que nous accueillons aujourd'hui ce groupe alors qu'il a eu les débordements que l'on sait autour du Hamas et du Hezbollah et du soutien qu'il a exprimé à leur égard. Je ne sais pas si nous aurions accepté de recevoir un groupe qui aurait soutenu l'État islamique. J'espère que non. Il y a aujourd'hui quelque chose de cet ordre qui se passe et je trouve ça relativement grave. Ce groupe est reçu avec les honneurs au festival Rock en Seine. Il nous semble que c'est en totale contradiction avec ce que devaient être les valeurs d'un tel festival et ce que sont les valeurs du monde de la culture et de la musique en particulier.
Jonathan Raphaël, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. En bref, jeune homme de 20 ans poignardé à plusieurs reprises. Ça s'est passé à Paris alors qu'il se trouvait dans le tramway avec sa compagne. C'est en prenant la défense de cette dernière, insulté par un voyageur, que le jeune homme a reçu au moins 5 coups de couteau. Grièvement blessé, ses jours ne sont plus en danger. L'agresseur, lui, a été interpellé et placé en garde à vue. Après la Martinique où Bruno Retailleau évoquait hier, on en parlait dans ce journal, un tsunami blanc de cocaïne qui déferle sur la France, le ministre de l'Intérieur était en Guadeloupe. Il s'est notamment rendu dans un commissariat commissariat de Basse-Terre où il a confirmé un renforcement des moyens de lutte contre le narcotrafic. Et puis l'homme qui avait refusé l'accès à un groupe de 150 jeunes israéliens dans un parc de loisirs des Pyrénées-Orientales, mis en examen ce matin pour discrimination fondée sur l'origine, l'ethnie ou la nationalité. Le gérant du parc de loisirs encourt 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. À l'étranger, un choix qui fait polémique, ça se passe en Belgique. Les étudiants en master de criminologie de l'Université libre de Bruxelles ont voté pour que leur promotion soit baptisée Rima Hassan, du nom de la députée européenne de la France insoumise. Un choix malgré l'envoi à la direction de l'université d'une lettre signée par 1300 personnes, professeurs et diplômés, qui s'opposaient à la présence de l'insoumise sur la liste des choix possibles. Parmi eux, Georges-Louis Boucher, ancien étudiant de l'Université libre de Bruxelles, désormais député fédéral et président du parti Mouvement Réformateur.
C'est juste un scandale. Ici, on a quelqu'un qui incarne la haine de l'Occident, un soutien qui est à peine voilé à certaines organisations terroristes. Et puis, fondamentalement, on a ici des gens qui seront des futurs magistrats. Imaginez être un jour jugé par un magistrat qui sort de la promotion Rima Hassan.
Le député belge qui appelle l'université, je cite, à ne pas accepter le diktat de l'extrême gauche et demande qu'elle rejette ce nom de promotion. À l'étranger, toujours, la Russie revendique la prise de 2 villages dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Le pays intensifie sa pression militaire sur le terrain au moment où les efforts diplomatiques s'accélèrent pour trouver une issue au conflit. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, réaffirme ce soir qu'il n'y a pas de rencontre prévue entre Vladimir Poutine et son homologue ukrainien. Et puis dans la région Pacifique, à Wellington, les ministres néo-zélandais de la Défense, Judith Collins, et son homologue des Affaires étrangères, Winston Peters, ont annoncé en conférence de presse que leur pays va renouveler une partie de la flotte aérienne de son armée. Correspondant signé Jean-Pierre Zajac.
D'un montant équivalent à 160 milliards de nos francs, ce renouvellement va comprendre l'acquisition de 5 hélicoptères Sea Hawk qui vont remplacer les 8 Sea Sprites en exercice dans la marine Kiwi depuis les années 90. Les 2 appareils de transport Boeing 757 qui tombaient régulièrement en panne céderont quant à eux la place à 2 Airbus A321XLR. D'une portée de 8700 km, ces avions seront acquis dans le cadre d'un contrat de location-vente de 6 ans. La Nouvelle-Zélande a besoin d'avions fiables, interopérables et capables d'assurer leur mission sur de longues distances, a déclaré Judith Collins. Les tensions mondiales s'intensifient et nous devons investir dans notre sécurité nationale pour assurer notre prospérité économique, a ajouté Winston Peters. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h08, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive et la météo.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Jusqu'au vendredi 19 septembre, gagnez un séjour au Sheraton Deva. Un cadeau d'une valeur de 153 000 francs, logé 3 nuits en bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour 2 personnes, offert par le Sheraton Deva. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 19 septembre à 14h. 371 francs par SMS. Ressourcez-vous dans un cadre exceptionnel au Sheraton Deva. Le resort vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres, bungalows et suites avec cuisine équipée à tout petit prix. Profitez aussi de ses restaurants, du spa deep nature et du golf. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange ? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Vous êtes sur RRB, plus la peine de zapper.
La fin de votre journal Le Sport avec Lionel Sabot.
Et du rugby, et cette première réussie. Le 15 de France féminin a remporté son premier match de la Coupe du Monde en Angleterre, Michael Juneski.
Oui, les Françaises se sont imposées face aux Italiennes sur le score de 24-0. Trois essais à la clé, succès qui a été difficile à se dessiner, mais il y aura des choses donc à corriger au prochain rendez-vous, reconnaît Marine Ménagier, elle est co-capitaine de l'équipe de France.
Je pense que ça a été un match très courageux de la part de l'équipe. Alors forcément, beaucoup de détails à régler, surtout offensivement, avec beaucoup de petits déchets sur des petites passes qu'on peut régler très rapidement. En tout cas, on manquait pas d'envie, je pense qu'on a montré un très beau visage, et défensivement on a été très solide. On l'a toujours dit, l'ADN de notre équipe passe par la défense. Aujourd'hui on l'a montré, maintenant juste être plus précise en attaque, et on va faire une grosse Coupe du Monde.
Les Bleus qui réussissent tout de même donc leur début de mondial avant leurs deux prochaines rencontres pour le compte de la poule D. Elles feront face aux Brésiliennes le week-end prochain et enfin aux Sud-Africaines dans 15 jours.
L'actualité du football avec la suite et la fin ce soir et demain matin pour nous, la deuxième journée du championnat de France de Ligue 1.
Et un choc en vue ce lundi, Lille contre Monaco, deux sérieux clients, même si évidemment le classement ne rend pas encore compte du niveau des équipes, puisque les Lillois, après leur nul le week-end dernier à Brest, ne pointent qu'à la 11e place. Et à l'inverse, les Monégasques, déjà victorieux du Havre, 3-1, se verraient bien tenter de prendre la première place à l'OL, dans le cercle très fermé déjà des équipes qui ont remporté leurs deux premiers matchs. Coup d'envoi donc de ce duel à 5h45 demain. Auparavant, dès minuit, un derby de Bretons entre Lorient et Rennes, puis en simultané à 2h15 les rencontres Le Havre-Lens, Toulouse-Brest et Strasbourg-Nantes.
Le cyclisme, Mickaël, avec le Tour d'Espagne qui est lancé.
Et la première étape du Tour d'Espagne donc, au départ de Turin sur les routes italiennes, a vu déjà la victoire du Belge Jasper Philipsen au sprint. Il a devancé le Britannique Ethan Vernon et le Vénézuélien Orluis Aular. Ce soir, le peloton s'élancera sur une étape longue de 157 km à partir de 22h53 précisément pour nous.
MotoGP, cette fois-ci, rendez-vous ce soir pour le Grand Prix de Hongrie.
Et assistera-t-on à une nouvelle victoire de Marc Marquez, que plus rien n'arrête hein, après ces 6 Grands Prix gagnés d'affilée. Et puis l'Espagnol a déjà remporté la Sprint Race hier soir après avoir signé la pole position. Il a devancé les Italiens Fabio Di Gianantonio et Franco Morbidelli. Fabio Quartararo et Joan Zarco, les deux Français, ont tous les deux chuté et abandonné. Ils avaient signé respectivement les 6e et 18e temps des qualifications. Course à suivre ce soir, départ à 23h, heure de Nouméa.
Le sport en Calédonie avec des trailers qui ont traversé le territoire d'est en ouest. Le Coast to Coast s'est terminé ce dimanche à Koné. Comme hier, la victoire est revenue sur la deuxième étape au trio Leslie Novicki, Gabriel Espada et Samuel Conan. Avec un total de 4h54 minutes et 59 secondes d'effort, il termine grand vainqueur de cette édition 2025. Écoutez Laure Papin pour Challenge Organisation.
C'est l'équipe Terre de Renu, Let's Go, avec Gabriel Espada, Leslie Novicki et Samuel Conan qui gagnent le Coast to Coast 2025. Ils ont mis 2h09 sur la première étape et 2h45 sur la deuxième. Ça fait un total d'un petit peu moins de 5h, ce qui est une jolie performance parce que on avait malheureusement pas trop la météo avec nous, donc des sentiers très techniques, glissants, avec beaucoup de traversées de rivières. Mais des jolies étapes aussi. La deuxième équipe, c'est Just Sunat, qui est composée de Julien Delrieux, Natalia Prado, Antoine Guillonneau, qui eux ont mis 5h29 à faire les deux étapes. Et la troisième équipe, c'est Sans Clair, c'est mieux. Donc c'est Jérémy Marie, Jessie Loyer et Loïc Dehan, qui eux cumulent 5h36 sur les deux étapes. Quelques petits bobos, pas mal de glissades, surtout avec la météo, encore une fois, pas mal de petites chutes, mais rien de grave.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou. Notez que plus de 180 coureurs s'étaient élancés hier de tout haut pour cette Coast to Coast 2025. Et puis, Mickaël, hors du territoire, les footballeurs de la sélection calédonienne des moins de 16 ans ont atteint les demi-finales du tournoi OFC de leur catégorie d'âge.
Et un billet pour le mondial en vue bientôt pour les jeunes cagoule. Leur victoire sur les Samoans 5-0 leur a assuré de poursuivre l'aventure. Ils avaient déjà fait un grand pas en arrachant le nul face à la Nouvelle-Zélande 0-0 après leur première victoire sur les Salomons 5-2. La réaction du coach des moins de 16 ans, Francis Watchroon.
Bon, aujourd'hui, il n'y avait pas tellement de points d'attaque. J'avais dit juste aux garçons qu'il fallait essayer de gagner le match avec un score large pour essayer de finir premier de la poule. Il y a cette qualif pour les Coupes du Monde et donc ce serait bien pour ces jeunes-là qui ont travaillé depuis, qui travaillent depuis 2 ans déjà. Et si on se qualifie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, ben, ce serait bien pour nous, les jeunes, et puis pour la jeunesse de Nouvelle-Calédonie.
Et de son côté, la Nouvelle-Zélande a battu les Salomons 8-0 pour conserver la tête du groupe. Les Calédoniens qui devraient donc affronter Fidji, leader du groupe A, en demi-finale, alors que les Kiwis feront face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Allez, on termine ce journal avec la météo.
la météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel avec vous, Pierre.
Vigilance jaune, forte pluie et orage. Une dégradation pluvieux-orageuse concernera cette nuit et demain matin l'ouest. Au nord de Moindoux, l'est, les Loyautés, l'île des Pins ainsi que Belle et Pins. Cette nuit, le ciel se couvrira et les averses se généraliseront à l'ensemble du pays. Elles seront parfois soutenues, voire orageuses. Le vent de secteur nord, établi entre 10 et 15 nœuds en début de nuit, s'orientera à l'ouest puis au nord-ouest en seconde partie de nuit. Il se renforcera localement entre 15 et 20 nœuds, notamment du sud et des Loyautés à l'extrême sud. Les températures resteront douces et homogènes, comprises entre 20 et 22 degrés. Demain matin, une amélioration progressive se dessinera, enfin. Le temps restera toutefois chargé en matinée, avec encore des averses présentes sur la façade ouest ainsi que de l'île des Pins aux Loyautés où elles pourront être parfois fortes ou orageuse. Le vent d'ouest soufflera généralement entre 15 et 20 nœuds.
Merci Pierre, il est 18h15, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.